Radio Canu, la plus rebelle des radios. That boy you call is a diamond fella. All you little boys are a comedy of errors. You fellow, but your fellows get played like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. What are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You're midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. I do it as you like. You much ado about nothing, all you do is bite it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter's tale. Titus and Jonicus was bound to fail. So will you if a Carla get at ya. That's suicide, like Annie, a Cleopatra. Timberline, she was a man of day, Bridget Jones. Love's labor's lost a woman on her own. She needed two gentlemen of her own. This is ill estate and I am the owner. Wiser the man that knows a fool. Tempt not a desperate man with a jewel. Why take from Peter to go and pay Paul? Some rise by sin and by virtue fool. What have you made if you gain the whole world? But sell your own soul for the price of a pearl. The world is my oyster and I am starving. I want much more than a penny or a farthing. I've told no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper, which to your class and speak eloquent. Though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant. Call it urban, call it street, or rose by any other name. Smell just as sweet. Spit so hard but I'm smart at the bar. Come through with a Union Jack full of yarn.
Bonsoir.
Bonsoir.
19h04.
Vous êtes bien sur Radio Canu et c'est l'heure des infos. Et ce soir, on va parler de...
un sacré paquet de trucs, mais on va peut-être commencer par des petites brèves.
Alors là, la plus importante de toutes, hein, c'est une brève qui est en pleine page. Alors, dans Libé, alors je suis tombé sur Libé par hasard, le Libé d'aujourd'hui, et c'est donc une page immense qui nous parle du Grand Prix, du BFM Award, du manager de l'année. Donc c'est quand même une grosse blague. On va évidemment pas dire de quoi il s'agit, mais c'est juste pour préciser que donc dans les médias non libres comme Libé, ce genre d'horreur peut apparaître. Donc je précise, hein, c'est vraiment une pleine page, et évidemment, c'est pas quelqu'un de Radio Canu qui a été élu.
Ah, et ben moi je vais vous raconter que en ce moment à New Delhi, les écoles sont fermées. Les écoles sont fermées en raison de la détérioration de la qualité de l'air à New Delhi. Et il ne peut y avoir de compromis avec la santé des enfants. Nous avons demandé la fermeture de toutes les écoles de New Delhi jusqu'à dimanche. Ça, c'est ce que nous explique le vice-ministre en chef de la région de New Delhi. Cette décision est une extension de la fermeture décidée la veille des écoles primaires uniquement. Delhi étouffait ce mercredi pour une deuxième journée consécutive dans un brouillard polluant qui présentait des niveaux dangereux pour la santé. Et quand on parle de niveaux dangereux pour la santé, c'est que, alors il y a une histoire de 25 microgrammes par mètre cube d'air qui est la moyenne journalière maximum indiquée par l'OMS pour que ça soit la bonne santé. Là à Delhi, ils en sont entre 400 et 700 microgrammes par mètre cube d'air avec des moments de pic à 1000. Donc je rappelle le truc maximum pour la santé, c'est 25.
Voilà, sachant que nous à Lyon, on passe régulièrement en hiver, en décembre, janvier, ça passe dans les 100, 120, 130, 150 même 180 certaines nuits.
C'est ça, ce que j'allais dire, c'est que c'est 25, c'est que New Delhi là, c'est un peu pointe, mais qu'en réalité, nous on y va aussi. Enfin voilà, il y a une époque où on n'avait pas entendu parler d'alerte pollution, et puis petit à petit des choses qui étaient complètement inimaginables 10 ans avant se retrouvent complètement quotidiennes à des moments. Donc c'est aussi ce qui leur arrive à New Delhi en ce moment. Juste, et ben dans ce cas-là, les politiques réagissent toujours de manière extrêmement ferme. Alors à Lyon, bon, quand c'est Gérard Collomb, c'est un peu le même type de réaction, mais là en l'occurrence, plutôt que par exemple de prendre des mesures sur la circulation, non, on ferme les écoles. C'est sacrément malin.
Et toujours dans les brèves, on peut faire une brève toujours dans cette tendance humeur autour des médias libres, une pétition unitaire des radios associatives qui est donc sortie le 1er novembre 2017, que vous pouvez retrouver en particulier sur le site d'Acrimed, Action Critique Média. Ça c'est une asso assez intéressante, voilà, qui précise qu'un certain nombre de radios associatives se retrouvent à boire le bouillon dans la mesure où les salariés eux étaient pour une certaine part des contrats aidés qui viennent donc de gicler, comme on dit. Voilà, donc un certain nombre de radios associatives qui sont dans la mouise. Et on peut rappeler à cette occasion la particularité de Radio Canu, qui est la plus rebelle et la plus indépendante de, alors pas nécessairement de toutes, mais en tout cas qui est parmi celles-ci, puisque sur Radio Canu, c'est du stricto sensu bénévolat et on n'a pas de subvention de quiconque, à part du fonds
de soutien de l'expression radiophonique.
Voilà, exactement. Voilà, donc c'est vraiment la quintessence de la radio indépendante, et c'est pour ça qu'on peut considérer qu'on va survivre malgré ces soucis.
Puisque Radio Canu n'a aucun salarié depuis extrêmement longtemps. A priori, ça serait une des deux radios associatives à n'avoir aucun salarié dans toute la France, l'autre étant Radio Zinzine.
Voilà, Acrimed, vous retrouverez cette pétition.
Attends, j'ai encore une petite brève. Une petite brève sur Wauquiez, le plouc, mais alors le plouc affiché, quoi. Parce que, écoutez, je vais vous lire le petit article de 20 minutes.
C'est un peu l'étalon plouc. Tu sais, c'est le truc, tu étalonnes en fonction de Wauquiez. Si t'es à peu près aussi Wauquiez, c'est que voilà.
Tout à fait. C'est que contrairement à Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez n'a pas la haine de la province. Bien au contraire. Puisque cette image rurale à laquelle il tient tant, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc notre président, la cultive dans les moindres détails. Et donc c'est l'Express qui explique qu'un proche de Laurent Wauquiez lui-même déclare que Wauquiez faisait exprès d'arriver à Paris sans avoir ciré ses chaussures, histoire de montrer qu'il avait les pieds dans la glaise, lui. Mais le gars de la Haute-Loire.
Alors, il faut préciser, moi je suis auvergnat, il est pas de la Haute-Loire. Hein. Initialement, je crois qu'il est de Neuilly, faudrait vérifier, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est auvergnat de souche.
Voilà, si tu veux, je sais pas ce que tu veux dire, puisque a priori, il se serait même adjoint les services d'un coach vocal pour retrouver, et non pas pour acquérir, pour retrouver son accent de la Haute-Loire. Et donc ça, c'est Le Monde qui nous avait appris ça au mois de septembre.
Voilà la truffe.
Et on va finir par une brève, parce qu'en fait j'avais oublié que j'avais une brève. Et c'est un sans-papa algérien qui a tenté de s'échapper du centre de rétention administrative, de Saint-Exupéry. Il a tenté de s'échapper par les barreaux de la salle, je cite, la salle détente. Alors il a réussi à franchir ces fameux barreaux, hein, les articles que j'ai lus ne disent pas comment. Puis avec un complice, il a tenté de cisailler le grillage avant de malheureusement se faire chopé par les flics de la PAF. Furieux, il a foutu le feu à sa cellule, et en gros c'est à peu près pour tout ça, hein, qu'il est passé en procès hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement, et s'est pris malheureusement 6 mois ferme.
Voilà, et vu que t'es un peu autocratique à considérer que c'était la dernière des brèves, hein, c'est quand même des tendances qui voilà, je te dis ça avec l'accent de la Haute-Loire, ça ne vous aura pas échappé, aussi une des brèves dont on n'a pas forcément beaucoup à discuter sur cette antenne, mais c'est qu'aujourd'hui est ouvert le Louvre d'Abu Dhabi, ce qui correspond grosso modo à une énorme pièce montée qui a coûté un fric pas possible, qui correspond à quelque chose à un projet probablement sans queue ni tête, qui avait été mis en place par Chirac et soutenu par Sarkozy. Voilà, donc je suppose qu'on va vous en seriner les oreilles sur les médias traditionnels, mais bon, c'est encore un projet tout bizarre qui arrive.
Et donc on a fini avec les brèves.
Yes. Quoi c'est un Nicolas Hulot au gouvernement? Alors c'est pas que un sujet de blague, parce que à un moment je trouve que j'ai entendu autour de moi un certain nombre de personnes en discuter, et effectivement la conclusion n'était pas forcément évidente sur savoir si Nicolas Hulot était une grosse crapule carriériste, ou si réellement le fait qu'il ait profité d'une sorte de possibilité de rentrer au gouvernement pouvait avoir un sens dans une perspective purement écolo.
Oui, et a priori il saurait lui-même pas vraiment à quoi il sert, puisqu'il il a dit que s'il servait à rien d'ici pas plus qu'un an, il s'en va, quoi.
Alors je vais y revenir. Mais du coup, la question en tout cas se repose pour aujourd'hui, parce que là on a une paire de trucs où effectivement on a l'impression qu'il ne sert pas tant que ça. Et donc alors voilà, il y a toujours cette histoire qui traîne et qui traîne et qui revient tout le temps du fameux glyphosate. Le glyphosate, le produit dégueu qu'il y a dans le Roundup, qui est hyper dangereux, hyper toxique, nanana. Va-t-il être interdit? Ne va-t-il pas être interdit? Au niveau européen, alors y a eu tout ce moment où il était question de renouveler l'autorisation pour 10 ans, mais là la France a été très ferme, c'était non, non, non. Bon, finalement elle a été très ferme, mais pas si ferme, mais quand même un petit peu ferme, parce que ça dépendait quel ministre parlait. Et donc la France a fini par dire 10 ans c'est niette. Donc il a été question de 5 ans. Et aujourd'hui, Nicolas Hulot a à nouveau été très ferme, il a dit la France est sur une position de 3 ans. Si la proposition est différente, comme celle qu'a prévu de proposer la Commission européenne demain, on votera contre, a dit Nicolas Hulot.
Ça, c'est la fermeté.
Ça, c'est la fermeté. Alors 3 ans, alors 5 ans, alors nanana. Bon, ça, Nicolas Hulot, il est hyper dans ce truc-là de dire, en tout cas, là où on en est, l'essentiel, c'est qu'on se dirige cette fois-ci vraiment vers un arrêt. Et vous allez voir, ça va revenir pour ma deuxième info sur lui. Mais donc là, il dit, pendant ces 3 ans, on va pouvoir travailler pour faire émerger des alternatives. Puisqu'on sait que cette histoire de glyphosate, les agriculteurs français et européens disent oui, mais si on peut plus utiliser ça, on va plus être compétitif. Donc c'est tout, tous les agriculteurs du reste du monde vont être bien plus compétitifs que nous et on va crever. En sachant qu'en réalité, ils sont en train de crever, de bouffer du glyphosate. Et de crever pour le coup au sens propre et pas économiquement. Bon, pour la rigolade quand même sur cette histoire, hier Ségolène Royal a appelé Nicolas Hulot à rester ferme sur le sujet du glyphosate, parce que Ségolène Royal, elle a des leçons à donner en termes de fermeté.
Ouais, c'est très courageux.
On se rappelle qu'elle a été longtemps elle-même ministre de l'Environnement et que ça lui a permis un nombre de reculs complètement impressionnant à chaque fois qu'il y avait une mesure ou une mesurette qui avait l'air de pouvoir aller peut-être dans un sens de protection de l'environnement. À chaque fois, Ségolène Royal l'a proposé. Des gens ont fait nous pour notre corps de métier, pour notre bande, tout ça quand même. Et elle a dit oups, excusez-moi, on va rien faire. Je vais pas citer des milliers d'exemples, mais il y a qu'à se rappeler cette histoire de taxe carbone. Donc c'était un truc pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de transport routier. Et là, les routiers ont fait « Comment ça ? C'est hors de question !» Et Ségolène Royal a dit « Bon, d'accord, laissez tomber, on arrête tout. »
Ségolène Royal qui avait rejoint les rangs de Macron. Si, elle avait dit, ouais. Elle avait dit, enfin, en gros, qu'elle l'aimait bien, d'amour, quoi.
Ah oui, ok. Bon, ceci dit, ça c'était le glyphosate, mais voilà, et ce qu'on a aussi, c'est que hier, Nicolas Hulot, toujours lui, a admis que la France ne pourrait pas tenir l'objectif de ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025. Donc cette histoire, c'était un truc qui avait été fait sous le quinquennat précédent, la fameuse loi sur la transition énergétique qui a été votée en 2015. Et qui disait, d'ici à 2025, sur toute l'électricité produite en France, il n'y en aura pas plus de la moitié qui sera nucléaire.
D'ailleurs, dans un discours de Macron de février, il y a des gens qui ont retrouvé cette phrase où Macron dit « Je ne reviendrai pas sur ce qu'avait dit Hollande sur cette
situation. » Tout à fait. Bon, alors voilà, bien sûr, des promesses qui passent, et puis finalement les gens qui ont fait les promesses sont plus là, ou ils sont à nouveau là, mais tout le monde compte qu'on les a oubliés, etc. etc. Donc... l'annonce de Nicolas Hulot a provoqué quand même la colère des écologistes. Alors il y a plein de réactions, mais Greenpeace par exemple, ce n'est pas en reculant sur le nucléaire que la lutte contre les dérèglements climatiques s'accélérera, puisque c'est ça aussi l'explication qu'a donné Hulot. Et donc aujourd'hui, il a cherché à se justifier sur BFM TV. Si on veut réaliser cet objectif d'ici 2025, il faudrait fermer entre 17 et 25 réacteurs, impossible sauf à ne pas tenir compte de nos engagements sociaux, à ne pas fermer les centrales à charbon et à ouvrir les centrales thermiques, donc soit le nucléaire, soit les trucs charbon, etc., c'est-à-dire qui pourrissent le climat. L'important, c'est de regarder la faisabilité et de ne pas se poser des totems, a expliqué Nicolas Hulot. Bla 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 bla, et donc tout ça, c'est la faute du gouvernement précédent, d'après Hulot. Mais promis, voilà, alors cette fois-ci, c'est sûr, si c'est pas pour 2025, c'est pour 2035.
Promis là.
Promis. On ne recule pas, dit-il. C'est pas une reculade, alors ça, non. On va avancer. J'ai un an pour parler des scénarios avec l'ensemble des acteurs. Si je m'en étais tenu à l'immobilisme prédominant, on ne l'aurait pas fait ni en 2025, ni en 2030, ni en 2035, a jugé le ministre, qui a alors blabla, réalisme, blabla, rationalité. Et d'ici là, Hulot confirme son objectif de fermer la centrale de Fessenheim d'ici la fin du quinquennat. Tiens, on avait déjà entendu ça, mais c'était lors du quinquennat précédent. Enfin, c'était pas lui en l'occurrence. Hein, mais...
Sachant qu'il faudrait aussi fermer très rapidement celle du Bugey, qui est la plus ancienne, je crois.
Oui,
c'est
parce que
la plus ancienne, c'est de Fessenheim.
Bon, celle du Bugey est pas mal aussi.
Et Nicolas Hulot promet aussi de stopper l'activité des centrales à charbon dès 2022. Limite pour le quinquennat. Notons que François Hollande voulait aussi donc fermer Fessenheim avant la fin de son quinquennat. Il l'avait promis pendant sa campagne, il l'a répété au début du quinquennat. Notons aussi que la date limite pour le coup de 2035 pour les 50% blabla. Ça laisse la possibilité à pas mal de gouvernements, parce que 2035 c'est dans longtemps, de gouvernements futurs d'accuser à chaque fois le gouvernement précédent de reculer la date ou tout simplement d'oublier l'objectif. Et même avec un peu de chance, avec cette histoire de, par exemple, mais c'est juste un exemple, de cuve en acier super pourri de Super Phénix, avec un peu de chance, et ben d'ici à 2035, tous ces objectifs seront devenus complètement dérisoires à la faveur d'un beau feu d'artifice.
Alors, peut-être deux bricoles pour aller dans ton sens. Le premier, c'est une suggestion de cadeau de Noël, puisque sur le site de Sortir du Nucléaire, pour 18 euros, vous pouvez offrir un superbe t-shirt jaune Sortir du Nucléaire, qui est plutôt joli. Et il y a des stickers et tout ça, mais bon, voilà, ça fait une bonne idée. Et la deuxième suggestion, c'est une suggestion de lecture à propos du glyphosate, là. Il y a Bastamag qui a sorti un article il y a deux jours sur deux autres pesticides qui sont classés dans les néonicotinoïdes.
Bon, néonicotinoïdes.
Ceux-là. Ceux qui attaquent les neurones des insectes. Et donc, il y en a deux nouveaux qui viennent de sortir. Mais alors, attends, je te vois me regarder avec un air défiant. C'est des insecticides qui sont bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, c'est les industriels qui le disent. Et donc, ils viennent d'être acceptés et donc pourront atterrir sur le territoire français. Voilà. Donc, c'est ça à lire sur le.
Tu veux dire que si le glyphosate finit réellement par être interdit, c'est pas grave.
Non. Ouais, voilà.
On a pas remplacé.
Voilà. Ce que je veux dire, c'est que le glyphosate, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. La forêt d'autres produits qui arrivent sur le marché. Et donc, cet article, vous pouvez le retrouver donc, sur le site de bastabac.net, je crois.
Ne vous inquiétez pas, Monsanto est sur le coup.
Alors là, c'est pas eux.
Là, c'est
mais
pas eux.
C'est pas eux, mais c'est pas loin.
Ça doit être... Et là, on va aller parler. On va parler homophobie et racisme.
Et alors que le Louvre à Abu Dhabi est inauguré aujourd'hui par Macron, plutôt que d'aller voir les détails de cette cérémonie culturelle au fort goût financier, je suis plutôt allé sur les blogs de Mediapart et notamment le blog Vendeur-Vendeuse de haine. Et lu l'article « Lutter contre l'homophobie, lutter contre l'islamophobie, une double évidence » que je vous conseille fort d'aller lire dans son intégralité et que là, à la radio, sur Radio Canu, je vais vous en lire quelques extraits. Je commence. Sur mon compte Twitter, j'ai indiqué que j'étais adhérent au collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, et ancien militant d'ACT UP Paris. Cela me vaut régulièrement des messages de haine. J'y précise mes engagements contre le sida, pour les droits des personnes lesbiennes, bi, gays, trans, intersexes, LGBTI. Donc, dans les années 90 et le début des années 2000, mes expériences de homophobie et de la lutte contre le sida m'ont appris à me méfier des rappels à l'universalisme républicain visant à disqualifier les revendications et les combats des personnes que la République oubliait, négligeait, maltraitait. En refusant de reconnaître les unions homosexuelles tout au long des années 90, cette république a permis à la famille de mon ex de nous interdire à son compagnon de l'époque et à moi l'accès à son enterrement quand il est mort du sida. Ce compagnon n'a pas pu retourner dans l'appartement dont le bail n'était pas à son nom. Nous n'avons pu récupérer aucun souvenir intime de la personne que nous avions aimée. Voilà mon expérience de l'universalisme républicain. Et pendant ce temps, les grandes penseurs, penseuses nous psychanalysaient, nous jugeaient de surplomb, mesuraient le danger que nous représentions pour leurs privilèges et leurs préjugés, et surtout laissaient crever un grand nombre d'entre nous sans rien faire, comme si nos vies ne comptaient pour rien. Comment peut-on encore croire à l'universalisme de la République après ce genre d'expérience ? Donc cette république a permis par l'indifférence de ses représentantes une hécatombe qui aurait pu être évitée si des mesures avaient été prises plus tôt. Par exemple, si des campagnes de prévention n'avaient pas été censurées au motif qu'il ne fallait pas faire de prosélytisme homosexuel, argument qui n'était en rien limité à l'extrême droite. C'est peut-être ce dernier point qui révèle toute l'hypocrisie de ce discours universaliste. Pendant une décennie, des pouvoirs publics ont refusé de financer des spots de prévention mettant en scène des homos sous prétexte qu'il fallait s'adresser à tout le monde. Ils indiquaient ici que les homos ne faisaient pas partie de l'universel et, en refusant de décliner les identifications et les cibles, contribuaient à rendre les gays, les trans, les usagères de drogue plus vulnérables à la pandémie. Donc je continue à citer, j'ai très vite appris à me méfier aussi du mot communautarisme, terme vide de sens. Aujourd'hui, l'accusation de communautarisme est en général réservée aux seuls musulmans et musulmanes, notamment quand ils et elles demandent légitimement à la République les mêmes droits et les mêmes protections face aux discriminations. Mais elle a aussi été opposée par le PC aux gays et aux lesbiennes. ACT UP Paris a souvent été accusé de communautarisme pour vouloir défendre l'égalité des droits, notamment à la fin des années 90 au moment des débats sur le PACS ou au début des années 2000 quand nous étions parmi les rares organisations à réclamer l'ouverture du mariage. Un autre extrait. Mon engagement dans la lutte contre le sida m'a aussi permis de constater la réalité du racisme institutionnel, notamment celui de l'État. Ce racisme est pourtant indéniable dès lors qu'on se penche sur les données de santé. Comment qualifier ce qui conduit un État à expulser, malgré la loi, des personnes gravement malades dans des pays où elles et ils ne pourront se soigner? Comment expliquer qu'à niveau social égal, des personnes migrantes soient plus exposées au sida, au retard dans le dépistage du VIH ou du cancer du sein, au saturnisme? Un autre extrait qui parle en fait de, à partir de 2002, les débats nationaux sur le voile. J'ai été particulièrement frappé des stratégies de disqualification de la parole des premières concernées, les femmes musulmanes, qui me rappelaient celle à laquelle se sont heurtées et se heurtent encore les militantes de la lutte contre le sida. D'une part, les débats publics, les reportages, les plateaux télé parlaient la plupart du temps d'elles, mais sans elles. Dans le meilleur des cas, un documentaire leur accordait une place, mais pas un seul témoignage individuel. On leur niait la capacité à avoir une expertise propre sur le sujet de la législation qui les concernait. C'était un phénomène bien connu à ACT UP Paris avant aussi, et dans la lutte contre le sida. Les journalistes nous contactaient pour avoir des témoignages individuels de personnes vivant avec le VIH, illustrant une chose déjà décidée. Ils et elles avaient parfois des demandes précises. Un couple homo dont l'un est séropositif et qui veut un enfant, tout en refusant le point de vue politique de fond de l'association des personnes. Résultat, des expertes discourent sur des témoignages et les premières concernées ne peuvent leur répondre. Donc quand la parole de ces femmes musulmanes est prise en compte, quand elles ne sont pas réduites au silence, on la disqualifie en les faisant passer pour victimes ou coupables. Victimes, elles subissent la pression de leur entourage masculin et ne savent pas ce qu'elles disent. Coupables, elles sont complices du sexisme, de l'islamophobie, des atteintes à la laïcité, du terrorisme, et on ne saurait donc accepter leurs paroles. Cette dichotomie victime-coupable, cette médaille à deux faces de la disqualification de la parole des premières concernées, la lutte contre le sida la connaît aussi. Donc, injonction à l'universalisme républicain, accusation de communautarisme, disqualification de la parole des premières concernées. Je retrouvais dans ces débats les ingrédients de l'oppression que la République et les défenseurs de ces inégalités avaient manifesté auprès des minorités exposées à l'épidémie de VIH-SIDA, assaisonnée cette fois-ci à la sauce islamophobe. Voilà, j'ai encore un dernier extrait, mais là le temps file et je ne vais pas vous le lire. Mais donc vous pouvez aller lire cet article. Donc son but, ce n'est pas de dire que c'est la même chose, hein, l'homophobie et le racisme. C'est bien de voir les mécanismes qu'utilise l'État pour discriminer des populations. Et donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi écouter l'émission numéro 73 de Case Rebelle. C'est un portrait de Régis Samba Nouzi, un militant et photographe qui raconte sa construction et son parcours entre la République démocratique du Congo et la France, Planète Africa et Act Up Paris. Voilà.
Écoute, puisque tu viens de parler d'Act Up, moi je vais continuer avec des petites histoires de genre finalement. Et donc, on va commencer par parler de Danica Rome, qui est devenue hier la première personne ouvertement transgenre élue à l'Assemblée Générale d'un État américain. Candidate démocrate, 33 ans, elle a été élue avec 55% des voix dans la circonscription de la petite ville de Manassas en Virginie. Elle occupera le siège du sortant républicain Robert Marshall, qui lui était quand même là depuis 26 ans. Et donc ce Marshall, très conservateur adversaire de Danica Rome, il était connu lui pour son opposition ferme à l'égalité des droits pour les personnes LGBT. Alors lui, par exemple, il a complètement refusé de parler de son adversaire au féminin, donc lui attribuant le genre qu'elle avait à la naissance. Et alors, il se décrivait lui-même comme l'homophobe en chef de l'État de Virginie. Ouais, c'est ça, c'était vraiment... En janvier, il avait par ailleurs présenté à l'Assemblée de son État une loi qui avait été finalement rejetée, mais qui aurait obligé les personnes à utiliser les toilettes réservées au genre indiqué sur leur certificat de naissance.
Ah oui.
C'est-à-dire que si t'es une femme trans, tu dois aller dans les chiottes des mecs. Si t'es un mec trans, tu dois aller dans les chiottes des femmes. Voilà, alors de son côté, Danica Rome avait, elle, plutôt refusé de mener une campagne électorale qui aurait été basée surtout sur les questions LGBT. Et elle a quand même plutôt parlé de trucs comme le problème des embouteillages ou en tout cas des vraies questions quotidiennes dans sa circonscription. Seul un tout petit nombre de gens ont dit à mes bénévoles et collaborateurs qu'ils ne voteraient pas pour moi car je suis transgenre, avait d'ailleurs expliqué l'ancienne journaliste en octobre dernier. Alors, c'est en Amérique. Donc c'est ce que moi je raconte là, c'est quand même plutôt deux relativement bonnes nouvelles. Et en Allemagne, c'est une première en Europe. La plus haute juridiction allemande a exigé aujourd'hui la légalisation d'un troisième sexe sur les actes de naissance. La Cour constitutionnelle a donné à la Chambre des députés jusqu'à fin 2018 pour voter cette légalisation sur les registres de naissance, donc qu'il puisse y avoir une mention masculin, une mention féminin et un troisième truc. La juridiction, qui est basée à Karlsruhe, invite les députés à introduire dans les documents une mention du genre inter ou divers, ou en tout cas n'importe quoi, mais qui soit une désignation positive du sexe. Alors il faut quand même savoir qu'en Allemagne, d'ores et déjà, depuis mai 2013, il est possible de ne pas renseigner le champ relatif au sexe au moment de la naissance d'un enfant et de le laisser vide. Les intéressés, donc les personnes qui naissent avec cette case vide, pouvant ensuite, au cours de leur vie, soit faire le choix et demander à être inscrit en masculin ou en féminin, soit garder la mention du sexe non renseigné. Mais alors, la Cour fédérale de justice avait refusé en août 2016 d'aller plus loin et de reconnaître l'existence juridique d'un troisième sexe, en jugeant que ça serait pas légal. Elle avait rejeté une demande d'une personne intersexuelle née en 1989 et enregistrée avec le sexe féminin et qui, elle, voulait avoir autre chose, quoi. Donc voilà, finalement, aujourd'hui, cette cour constitutionnelle, elle va autoriser ça. Et toujours est-il que ça, c'est quand même en Allemagne, puisqu'en France, par contre, la France avait rejeté la mention sexe neutre et en écartant la demande qu'avait faite une personne qui était née sans pénis ni vagin et qui, elle, aurait bien voulu... la détermination d'un sexe pour quelqu'un, en fait, c'est un truc qui est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'évidence qui marche pour un énorme pourcentage de la population, mais mine de rien, il y a un petit pourcentage où les critères anatomiques, les critères génétiques et les critères hormonaux et tout ça vont pas forcément dans le même sens. Mais pour ces gens, ça peut faire des choses énormément plus compliquées.
Voilà, cette fois-ci, on se décale du côté du Cachemire, avec depuis les deux derniers mois, près de 200 femmes qui ont déclaré avoir été attaquées, donc dans le Cachemire, par des agresseurs masqués qui leur ont coupé les tresses. Voilà, donc ça a l'air de rien. Enfin, en plus, c'est déjà beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est particulièrement quelque chose du côté de l'Inde, puisque la longueur de la chevelure d'une femme est associée à son honneur. Et donc, réduire de force la longueur des cheveux, c'est une attaque sur la personne et également sur l'honneur de ces indiennes là, quoi. Voilà. Donc il y a certains agresseurs qui sont allés pas à main morte, ils y sont allés à coups de produits chimiques pour rendre inconscientes ces femmes, et après ils ont pris le temps de leur couper les cheveux. Ça s'est fait chez elles, etc. Alors, ce qui est vraiment super, c'est que la police dit on ne sait pas qui sont ces agresseurs. Les agressions demeurent non résolues, et du coup, il y a des manifestations qui sont assez hard, du côté du Cachemire ces dernières semaines. Alors, juste pour rappeler quand même que depuis trois décennies, et je vous ferai le lien après avec ces agressions, les populations de la vallée du Cachemire, elles réclament elles réclament un référendum pour leur indépendance. Le Cachemire, c'est entre le Pakistan et l'Inde. Et voilà, donc l'Inde, au sens de l'État, a été très répressive du côté du Cachemire. Il y a 68 000 personnes qui ont été tuées dans des soulèvements populaires et au cours des répressions qui ont suivi ces soulèvements dans ces trois dernières années. L'armée indienne a été accusée de nombreuses violations des droits de l'homme, et il y a des disparitions forcées de plus de 8 000 personnes. Alors, c'est quoi le lien? C'est donc du coup, dans ce Cachemire, où il y a une très forte présence militaire, c'est un petit peu costaud d'imaginer que les flics savent pas ce qui se passe, surtout que il y a plein de militaires, plein de flics, c'est ultra militarisé, comme je vous ai dit, et il est difficile de croire que les personnes qui enquêtent ne peuvent pas savoir qui a fait ça dans un endroit, le Cachemire, où même le mouvement des oiseaux et des feuilles est traqué, quoi, entre guillemets, quoi. Les services de renseignement sont capables de déloger les manifestants dans tous les coin des pays, mais ils ont, entre guillemets, aucune idée de qui a coupé ces tresses des femmes. Voilà. Donc, du coup, il y a plusieurs théories qui sont sous-jacentes là-dessus. Qui coupe de façon systématique les cheveux de ces femmes? Alors, on pense à une vieille tactique de New Delhi, qui est une espèce de tactique pour semer un peu la terreur au sein de la population, qui consisterait à suggérer à ces femmes de rester recluses et puis que de se méfier énormément de l'étranger. Alors il y a eu quelques manifestations de rejet de part de la foule, de certains touristes ou d'étrangers ou de migrants qui passaient par là, parce que il y a cette espèce de truc qui dit que on sait pas qui fait ces agressions, donc on rejette l'autre. Et en particulier, ça peut permettre à l'État indien de mieux contrôler ce qui se passerait du côté de la vallée, puisque les militants et les militantes se baladeraient pas trop, puisqu'elles pourraient être considérées comme potentiellement personnes étrangères qui potentiellement pourraient être source de ces soucis-là d'agression. Voilà. Alors, un autre corollaire, donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment en cours du côté du Cachemire. Un autre corollaire, c'est que pour les femmes, c'est une situation qui a donc affecté leur sentiment de sécurité, mais qui a aussi des corollaires négatifs sur leur liberté. Alors, c'est dans le journal Feminism in India que l'on a une femme qui décrit en fait des réactions patriarcales qui ont suivi en fait ces phénomènes de coupure de tresses. Il y a des hommes et des femmes dans la rue qui demandent à des femmes de se couvrir la tête. Il y a des parents qui se mettent à s'inquiéter pour les sorties matinales et tardives, etc., etc. Donc indirectement, la liberté des femmes se retrouve réduite par le fait qu'elles sont agressées. Voilà. Donc, heureusement, ça bouge un tout petit peu. Il y a les étudiants de l'université de Cachemire qui commencent à protester par des actes, contre ces actes de coupure de tresses. Et il y a une commission qui a été mise en place par le gouvernement local du Cachemire pour faire face à ces attaques. Et malgré tout, les tensions demeurent hyper fortes du côté du Cachemire. Alors en plus, il se trouve que il y a eu d'autres types de, il y a eu dans d'autres états de l'Inde ce type d'agression de coupure des cheveux. Et il y a eu des rumeurs qui ont dit que c'était des femmes complètement hallucinées qui s'étaient auto coupées les cheveux dans ces autres états, etc., etc. Bref, il y a un flou monstrueux. La morale de l'histoire, c'est que l'inquiétude de ces Cachemiris reste complètement sans réponse et que du coup, bah voilà, ça bouge, les gens manifestent et attendent un petit peu de clarté sur ce dossier. Donc peut-être on en reparlera une prochaine fois.
Si les intérêts musicaux sont si longs, c'est parce qu'on n'avait pas du tout fait de fil pour les infos. Il faut juste le temps qu'on s'organise.
Et donc, 8 personnes ont été interpellées aujourd'hui après l'incendie de la gendarmerie de Mélance et dans l'Isère. Les personnes placées en garde à vue ne seraient pas liées au milieu libertaire d'ultra-gauche ou anarcho-autonome, ou comme on veut, en tout cas, ça ne serait pas nos camarades.
Alors tu dis ça parce que c'était ce qui était présupposé.
C'est ça, suite aux revendications qui avaient été faites pour 2 incendies volontaires. Et donc les personnes mises en garde à vue seraient plutôt liées au milieu de la délinquance. De la délinquance droit commun, quoi. Donc l'enquête sur l'incendie volontaire de la gendarmerie de Mélan le 26 octobre dernier progresse et donc après les investigations, la section de recherche de Grenoble a arrêté aujourd'hui 8 personnes à Mélan, Grenoble et La Tronche. Les personnes arrêtées et pour l'instant placées en garde à vue sont soupçonnées par les flics d'être aussi peut-être impliquées dans l'incendie du garage et des locaux techniques de la caserne du groupement de gendarmerie de l'Isère. Donc ça, c'est le premier incendie de voiture de flics qu'il y avait eu dans l'Isère. Et ça, c'était le 21 septembre. La surprise, donc, c'est que ces interpellations auraient finalement été réalisées dans les milieux de la petite délinquance. Alors, c'est comme ça que disent les journaux. Et pas du tout dans les milieux libertaires d'ultra-gauche. Alors que, a priori, c'est quand même plutôt ces milieux libertaires d'ultra-gauche qui avaient revendiqué les 2 incendies volontaires, les 2, différemment, avec 2 communiqués différents.
Ah, mais le premier incendie, du coup, non plus, c'était pas. Enfin, a priori.
On n'en sait rien. Les flics pour l'instant ont arrêté des gens a priori pour le deuxième, mais se disent que c'est peut-être les mêmes gens qui ont fait le premier aussi.
On peut rappeler que les revendications étaient passées sur le site Indiménie à Grenoble et que du coup ça avait fait du rififi puisque les plus réacs de la société avaient considéré qu'il fallait peut-être éteindre ces sites.
Surtout en fait ils ont été directement menacés par
Un truc qui a un nom à rallonge, un DJRF.
Voilà. En tout cas, soit ils dégageaient le texte de leur site, soit les sites allaient être interdits, en sachant que le texte, on pouvait de toute façon toujours le trouver sur le site de 20 minutes et sur le site de l'Express ou le Point.
Oui, voilà.
Comme ça. Bon, toujours est-il que pour l'instant, on ne sait pas comment et pourquoi la gendarmerie a remonté la piste là où elle est arrivée et si elle a réellement complètement écarté la piste de l'ultra-gauche. Pour l'instant, le procureur de Grenoble ne répond à aucune question. Et donc, après ce deuxième incendie, l'incendie de Mélan, qui avait détruit 4 voitures et une moto dans l'enceinte de la gendarmerie, donc la première idée, c'était cette piste d'ultra-gauche, d'autant plus qu'un groupe féministe avait publié un long texte sur Indie Media Grenoble, dans lequel ce groupe revendiquait l'attaque. Et donc les femmes en tout cas supposées femmes qui avaient signé le texte, disaient vouloir lutter contre le sexisme, contre le genre, en expliquant leur action par une envie de revanche. Le mode opératoire y était même détaillé. Le groupe expliquait notamment avoir cadenassé l'accès au parking de la gendarmerie pour faire une blague aux pompiers et disait avoir utilisé 10 litres d'essence. Nous avons ciblé les voitures privées des flics au détriment de quelques voitures elle dit sérigraphiées, mais c'est-à-dire des voitures estampillées gendarmerie, quoi, parce qu'on avait envie de s'attaquer à leur bien personnel plutôt qu'à leurs outils de travail. Donc ça, c'était ce qu'il y avait dans cette revendication. Alors aujourd'hui, on se demande qui a fait cette revendication et si c'est réellement les mêmes personnes qui avaient foutu le feu aux bagnoles.
Alors je vais parler maintenant des politiques sécuritaires en Égypte. Et je vais commencer par un petit rappel de la visite du 24 octobre à l'Élysée du président Al-Sisi. Macron a été à ce moment-là très complaisant avec lui vis-à-vis des droits humains. Il a préféré valoriser un allié commercial de taille plutôt qu'évoquer le régime répressif en cours en Égypte. Et depuis l'arrivée au pouvoir d'Al-Sisi en 2013, il y a 60 000 personnes qui ont été arrêtées pour leurs convictions politiques, tandis qu'on dénombre 81 exécutions et plus de 1700 disparitions au cours des deux dernières années. Ça, c'est selon les organisations de droits de l'homme qui ont produit ces chiffres. Et je cite, pour Amnesty International, la politique ultra-sécuritaire égyptienne n'a en rien renforcé la sécurité du pays, mais a tué, fait disparaître et mis sous les verrues des dizaines de milliers de citoyens innocents. Elle a réussi à faire taire par la terreur une société qui, il y a 6 ans, revendiquait de se libérer de la dictature et de pouvoir jouir de ses droits fondamentaux comme tout être humain. Et donc, aujourd'hui, la Cour de cassation égyptienne a confirmé une peine de 5 ans de prison pour Alaa Abdel Fattah, une figure de la révolution de janvier 2011, connue aussi pour son opposition au régime du président Al-Sisi. Il a été arrêté en février 2014 et il a été accusé d'avoir manifesté illégalement fin 2013 contre une série de procès militaires appliqués aux civils. Il avait été à ce moment-là condamné à 15 ans de prison en première instance et la cour d'appel avait réduit sa peine à 5 ans d'emprisonnement et il en a actuellement purgé 3 ans et demi. Donc Alaa Abdel Fattah est par ailleurs poursuivi dans le cadre d'une autre affaire dans laquelle il est accusé d'insulte à l'institution judiciaire à travers un tweet. Et en octobre, 10 organisations égyptiennes de défense des droits de l'homme avaient appelé la Cour de cassation à libérer Abdel Fattah. Et ces dernières semaines, une campagne de soutien a été suivie sur les réseaux sociaux à travers le hashtag, hashtag Free Allah. Et lors d'une interview à la chaîne France 24 en octobre, le président Al-Sisi avait nié la présence de prisonniers politiques dans son pays. Et aussi, le lundi 25 septembre, donc il y a un mois, au Caire, il y a 7 personnes qui avaient été arrêtées pour avoir brandi un drapeau arc-en-ciel à un concert de rock, au concert de rock du groupe libanais Mashrou Leila. Et les personnes détenues dans cette affaire ont été inculpées de, je cite, promotion de déviance sexuelle après avoir été filmées donc avec le drapeau. Et depuis, ben, il y a eu énormément de soutien, mais ce sont 34 personnes qui ont été arrêtées pour les mêmes motifs donc depuis le 25 septembre. Et pour rappel, donc l'homosexualité n'est pas illégale en Égypte. Mais il est toujours commun que les gays, les trans, les lesbiennes, ils soient arrêtés et inculpés pour de vagues motifs tels que débauche, immoralité ou blasphème. Et pour plus d'infos sur le sujet, pour montrer votre solidarité, etc., vous pouvez tweeter donc sur le tweet de Rainbow is not crime. Tout attaché, et l'autre c'est hashtag color not shame. pardon, c'est au pluriel. Hashtag Colors Not Shame.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Et on reste sur le con. Ouh, la transition. Et on reste. Voilà. On reste sur le continent africain, on va du côté du Kenya. Et
Pardon. Voilà, je m'embrouille dans mes boutons.
Bon, zabotage. Ça date de lundi. Il se trouve qu'il y a 3 recours qui ont été déposés contre la victoire écrasante du président sortant. Donc du côté du Kenya, il a eu 98% des voix. Il faut que je vous explique ce qui s'est passé. En fait, il y a eu des élections en août qui ont vu le président sortant être élu. Et puis, fort heureusement, la commission électorale...
Donne des noms. Le président sortant. Ouh, Kenyatta.
Putain, c'est chaud, hein. Ok, donc...
C'est pas tu, hein, ce Kenya, faut.
Ok, donc qui est de l'ethnie Kikuyu et qui était en particulier face à Odinga, qui était de l'ethnie Lao. Et il y a toute une histoire entre les Kikuyu et les Luo. Pardon. Voilà. Ça te va comme ça? Donc tout ça pour dire qu'il y a eu effectivement une élection qui a été incroyablement annulée par la commission électorale. Donc au 1er septembre, les juges de la plus haute juridiction kenyane ont dit « Bah écoutez, franchement, c'était le foin quoi. » Enfin je sais pas comment on dit maintenant chez les jeunes.
Le seum, c'était le seum.
Ouais, ok. C'était le dawa, et donc il faut absolument arrêter. À un moment donné, ils disent, voilà, il y avait un nombre invraisemblable de bulletins qui n'étaient pas là, qui n'ont pas été comptés, ou qui ont été... Enfin bon, bref,
c'était une décision vraiment, vraiment un peu exceptionnelle.
Ouais, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable.
Et ailleurs, qu'une cour dans un pays annule une élection qui avait en plus vu gagner le président en place. Quoi.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était assez exceptionnel. Alors, entre-temps, les membres de la Cour suprême, ils ont été un peu attaqués. Ils vivent un peu dans une atmosphère de peur et d'intimidation, hein, ça, faut le savoir. Et ils vont pas réannuler l'élection de cette fois-ci. Juste comme ça, hein, le garde du corps de la vice-présidente de la Cour suprême, il a été attaqué, blessé par balle, juste comme ça. Alors, il y a quand même quelqu'un qui dit, c'est peut-être quelqu'un, un criminel comme ça qui est passé, mais enfin bon, le gars il était armé, il savait tirer, et donc pour qu'on arrive à le désinguer, bon, ça doit être quand même des pros qui s'en sont occupés. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a eu donc cette élection, que l'opposant ne s'est pas présenté, donc d'où les 98% des voix, qu'il y a des parties entières du côté de l'ethnie Luo du Kenya, donc qui n'ont pas participer au vote, et puis il y a des parties entières de la population qui n'ont pas participé au vote parce qu'ils ont considéré que c'était une mascarade. Voilà. Donc il y a évidemment du rififi, il y a des violences qui se déroulent, en particulier, alors on dit des violences, mais il se trouve que c'est parce que il y a l'aspect répressif aussi du côté des parties du Kenya qui soutiennent donc le candidat qui s'est retiré et donc qui a perdu les élections, et donc c'est vraiment pas formidable. Voilà, alors pourquoi j'en parle aussi, c'est parce que sur un site que je connaissais pas qui s'appelle globalvoices.org, il y a un article assez intéressant qui s'appelle Data et démocratie, quel a été le rôle de Cambridge Analytica dans les élections au Kenya. Alors, de quoi on parle? En fait, ça parle de big data. Et de quoi on parle? Mais en fait, c'est que c'est une firme, une boîte qui s'appelle Cambridge Analytica, qui avait fait qui avait appuyé Donald Trump dans l'analyse de tout un tas de trucs. Donc le big data, c'est vous récupérez plein d'infos sur les gens, vous essayez d'extraire des tendances, puis vous servez de ces tendances là pour aller dans un sens ou dans l'autre dans votre discours, quoi. Et donc cette firme là elle avait aidé Donald Trump pour essayer de bien comprendre comment étaient constitués dans leur tête les indécis.
Elle avait
aussi
flipper.
Ouais, carrément, elle avait aussi aidé ceux qui étaient pour le Brexit. Et donc ça a été dit officiellement, c'est la BBC qui a sorti ça. Cette boîte-là s'est retrouvée au Kenya, évidemment, du côté du président sortant. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'elles ont fait, mais comme par hasard, sur Internet, il y a eu des campagnes et des campagnes qui ont circulé, comme quoi l'ethnie Luo, donc du candidat qui a perdu, c'était tous des malades, des gens violents, et qu'il fallait absolument les blacklister, quoi, en gros. Donc, Internet a fait ressurgir des combats ethniques assez crado, on va dire. Et on se demande si c'est pas par l'entremise de ce type de boîtes qui font du big data pour essayer d'orienter les choses. Voilà. Donc ça se retrouve sur globalvoices.org et ce qui va se passer au Kenya, on essaiera de le suivre et on en parlera peut-être dans les Kenya Info à suivre.
Maintenant, on va parler d'un mystérieux commando d'ultra-droite en Bourgogne, le commando de défense du peuple et de la patrie française.
Oui, on peut rigoler parce qu'en
fait, des flèches. Ils ont l'air d'avoir très très envie de faire très peur, mais peut-être qu'ils sont pas si effrayants que ça. Tout a commencé en deux temps, parce que tout a commencé le 26 septembre, mais en réalité, ça avait sans doute commencé avant. Donc le 26 septembre, à Dijon, une femme voilée et deux hommes non blancs ont été attaqués par un type cagoulé qui leur a foutu des coups de marteau. Bon, ils ont été légèrement blessés et a priori ils ont eu des bosses. Mais un mystérieux commando disant vouloir contrer l'islamisation de la France a revendiqué auprès du quotidien Le Bien Public les attaques en question. Alors il faut quand même dire qu'il les a revendiquées un sacré paquet de temps après, c'est-à-dire que j'ai plus la date, mais si, c'est jeudi dernier. Du 26 septembre à jeudi dernier, ça laisse quand même une grosse semaine.
C'est temps d'apprendre à écrire, peut-être.
Peut-être que c'est ça. Alors dans un message audio lu par une voix synthétique et transmis jeudi par mail au quotidien Le Bien Public, donc Le Bien Public, vous voyez Le Progrès à Lyon, Le Bien Public c'est le même, autant parce que c'est un quotidien régional que
parce que c'est de la merde.
Que parce que c'est de la merde. Tout à fait. Donc, dans un message audio lu par une voix synthétique et transmis jeudi dernier par mail au Bien Public, le groupe qui s'est baptisé Commando de défense du peuple et de la patrie française affirme que les attaques sur le site de l'Université de Bourgogne, au cœur de l'un des symboles du multiculturalisme, marquent l'acte de naissance de notre mouvement. L'enregistrement ajoute que les victimes ont été choisies en raison notamment de leur port du voile ou de leur couleur de peau, des éléments donc qui coïncident avec les faits et qui montrent que les personnes qui ont fait cette bande sonore sont au minimum bien renseignées. Selon ce que nous dit le procureur de Dijon. Alors, pourquoi est-ce qu'il prend soin de préciser ça? Parce que quand même, le procureur de Dijon, ainsi que celui de Chalon, on va y venir après, se demande quand même quel est le lien entre les trois coups de marteau et les revendications, si vraiment c'est les mêmes personnes. Dans un autre mail qui a été reçu vendredi par Le Bien Public, le groupe déclare son admiration pour Anders Behring Breivik, donc l'auteur de la tuerie en Norvège en 2011, 77 morts, nanana. Et le groupe a également fait part de son intention de passer une nouvelle fois à l'acte. Alors, ils admirent beaucoup ce gars qui a fait 77 morts. Bon, ils ont fait 3 boss. Si c'est eux.
On rigole, c'est quand même pas très drôle pour les gens qui se sont
fait
parce que je pense qu'ils ont sorti un peu, pas trop, enfin 3-6, je sais pas, mais il y a moyen de flipper, mais
tout à fait.
Le global est un peu...
Mais alors du coup, à partir de cette admiration pour Breivik, hier ils ont adressé un nouveau mail au Bien Public et cette fois-ci ils font des menaces. Des menaces avec conditions.
Au marteau les menaces.
Et cette fois, le groupe réclame la libération de Logan Alexandre Nizin. Vous vous rappelez, on avait parlé de lui il y a 15 jours, je pense. Un gars de 21 ans, lui aussi militant d'ultra-droite, qui est soupçonné d'être l'initiateur d'un projet d'attentat, peut-être contre des mosquées, peut-être contre des hommes politiques. Il a été arrêté. Quelques jours après, une dizaine de ses potes ont été arrêtés. On ne sait pas exactement ce qu'ils avaient en tête. En tout cas, on avait trouvé des armes chez lui et chez un ou deux de ses potes.
Ce qu'ils sont dans la tête.
C'est clair. Hein. Et puis, alors donc là, eux, ils disent qu'ils veulent que Nizin soit libéré. Et s'ils sont pas libérés, les défenseurs du peuple, blabla, du peuple machin truc, frapperont le prochain grand événement ayant lieu à Dijon, c'est-à-dire le match de Ligue 1, Dijon 3, qui se jouera le 18 novembre prochain.
Oui, il doit y avoir un peu de leurs amis.
Et dans la foulée, ils vont aussi s'en prendre aux journalistes du Bien Public, puisque le journal n'a pas publié cette menace sur son site internet avant mardi 16h, alors que c'était exigé dans le courrier.
Eh bien, dis donc.
Ouais, c'est... Donc, alors, bon, les flics et les procureurs, donc le procureur Dijon et le procureur de Chalon, ils se posent plein de questions en réalité. Il faut dire donc qu'avant cette fameuse attaque de trois personnes à Dijon, deux dames d'une cinquantaine d'années avaient aussi été attaquées à coups de marteau à Chalon cette fois. Par un agresseur qui pour le coup avait crié Allah Akbar.
Ah, du coup, j'en sais plus.
A priori, on se dit une autre sorte de cinglé. Mais. Mais quand même, du coup, notre groupe des vaillants défenseurs, blabla, la patrie française, toutes ces conneries, eux, eh ben, ils ont quand même aussi revendiqué cette attaque-là. Une manière, disent-ils, le fait de crier à l'Akbar, une manière d'aiguiller les enquêteurs sur une fausse piste. D'aiguiller les enquêteurs sur une fausse piste a ensuite expliqué cet obscur groupuscule, nous dit-on, dans une lettre de revendication envoyée, encore une fois, au bien public. Alors, bon, en même temps, c'est une démarche qui est intéressante, mais qui pose des questions de cohésion. Le fait de commencer par crier à la Akbar pour aiguiller les enquêteurs sur une fausse piste, puis de revendiquer le machin par mail. C'est la pensée nazie.
C'est la supralogique, ouais.
C'est ça. Donc, par chance, toutes les victimes, que ce soit à Chalon ou à Dijon, n'ont été que légèrement blessées. Donc, on disait sans doute une bosse. Et la trouille, hein, je veux dire. Selon ce qu'il a indiqué dans l'un de ses emails de revendication, le groupe serait composé de 4 personnes localisées en Bourgogne-Franche-Comté et qui se seraient rencontrées sur Telegram. Telegram qui ne sert donc pas que aux djihadistes, qui est une appli qui permet de communiquer en n'étant pas trop traçable par les flics. Donc qui ne sert pas que aux djihadistes, qui sert aussi aux djihadistes, enfin qui servirait si réellement c'est plusieurs personnes et si réellement quoi que ce soit, qui servirait aussi aux djihadistes de la patrie française. Mais pour l'instant, tout ça semble quand même vraiment très très incohérent. Et la possibilité qu'il y ait d'un côté un cinglé qui attaque les gens à coups de marteau, de l'autre côté des crétins de faf qui en profitent pour se la jouer, semble quand même être l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs, même si, bien sûr, la menace est prise très au sérieux, blablabla.
Ouais, juste une petite transition, une suggestion de lecture pour justement essayer de moins entendre de parler des FAF et plus de choses intéressantes. Il y a la revue Ballast qui nous propose une virée dans le Tokyo libertaire. Donc il y a un long article, donc je vais absolument pas vous lire, mais c'est assez intéressant à regarder. Ils vont dans des bistrots un petit peu engagés et ça se passe dans Tokyo, voilà. Et donc c'est à lire sur la revue, sur le site de la revue Ballast et aussi dans son exemplaire papier.
La transition de fou, on va continuer dans le papier. Et comme chacun le sait, tout le monde a ses petits rituels et ses petites traditions. Bah, par exemple, hein, la quête en fin de messe, hein, vous voyez, ça c'est une tradition, vous voyez, ces petits paniers en osier qui tournent de main en main. Comment ?
C'est important.
C'est important. Qui tourne de main en main sur les bancs des églises après la messe et où les gens lâchent de la grosse pièce au petit billet. Et quand on assiste à ça, on se demande quand même toujours pourquoi on met pas 20 centimes et on chipe le bifton de 10 euros. Donc si je vous parle de ce petit rituel tradition, c'est pour vous parler de l'appel à don du journal CQFD. Et oui, parce que même dans le milieu anarcho-autonome, communaux, libertaires, etc. Eh bien, on a des traditions. Et de la manière qu'on a les vedettes qu'on mérite, eh bien, on a les traditions qu'on mérite. Et c'est donc de manière relativement apériodique, anarchique quand tu nous tiens, que l'excellent journal CQFD refait un appel à dons. Et oui, encore, mais si vous vous dites encore, ah, ils font chier avec tous ces appels au secours à force de crier au loup, blablabla, je vous arrête tout de suite. S'ils n'appellent plus au secours, c'est que CQFD est mort. Mais alors pourquoi ils appellent autant à du soutien ? Eh bien, tout simplement parce que leur journal n'est pas rentable, et c'est tant mieux, c'est pas rentable parce que vendre un journal papier et en même temps mettre son contenu intégral en ligne à prix libre, c'est pas rentable non plus parce que ne pas mettre de pub dans un journal, ça rapporte pas de fric, c'est pas vraiment rentable parce que faire l'abonnement gratos aux prisonniers et prisonnières, ça rapporte pas de fric non plus. Alors c'est aussi pour toutes ces raisons et plein d'autres que CQFD sera toujours sur la corde raide et continuera à demander un coup de main à ses lecteurs, électrices ou sympathisants. Alors que vous soyez abonné depuis 10 ans, lecteur ou lectrice occasionnelle ou simplement quelqu'un qui trouve ce journal cool sans jamais vraiment le lire, allez-y, lâchez-leur votre petit billet, abonnez-vous ou abonnez votre pote ou votre grand-mère pour Noël, foncez sur cqfd-journal.org et filez-leur au moins de quoi s'acheter un pack de bière.
Yes.
Et il est 20h30, on est un peu en retard, mais le temps de laisser place à
Il est 20h quand même, hein.
Ah oui, 20h et 30 secondes, pardon, je me suis fait avoir par les petites. Il est 20h pile.
Le temps de laisser la place, effectivement.
Eh ben, on va s'écouter quelques secondes de bande continue.
Ciao.